Que le Seigneur soit béni. Nous lisons dans Luc 16. Luc 16. Au verset 10. Il est écrit ceci, Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Je voudrais parler de la valeur des choses. C'est très bien de connaître la valeur des choses. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur des choses, on risque un jour de vivre affamé alors qu'on a un lit en or. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur des choses, on risque d'appeler rouge vert et vert rouge. Nous avons besoin de connaître la valeur des choses. Quand on connaît la valeur des choses, on ne négligera pas les petites choses. Parce que nous saurions que, aussi petites soient-elles, elles ont une valeur. Une graine, elle est petite, mais elle produit un arbre. Donc on peut dire, c'est une graine, c'est rien du tout. Mais cette graine, lorsqu'elle est plantée, elle produit un arbre plus grand que la personne même qui a planté. Et cet arbre-là va vivre parfois plus de temps que la personne qui l'a planté. Mais pourtant, c'était une petite graine. Nous devons apprendre à mesurer la valeur des choses. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Mais pas seulement de l'intelligence de Dieu. Premièrement, nous avons besoin de nous humilier et de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien saisir la valeur des choses. Je me souviens quand on était jeunes, quand on était à l'école, il y en a qui passaient leur temps et j'en faisais partie. Au lieu d'étudier le soir à la maison, au lieu de revoir les cours, eh bien, ils passaient leur temps zappés devant la télévision. Et ils étaient dans la joie. En ce moment-là, pendant que l'autre travaille, l'autre passe pour quelqu'un qui souffre. Vous savez, il y a des moments où on était à l'internat, il y avait des amis qui bossaient. Nous, on faisait des sorties. Et au retour, vous revenez vers 22h. Vous trouvez les amis en train de travailler, vous avez l'impression qu'ils souffrent. La vie est dure pour eux. Toi, pour toi, la vie est belle. Mais bien aimé, demain devant la feuille d'interrogation, c'est là qu'on va savoir pour qui la vie est belle. Donc pendant que l'autre est en train d'écrire rapidement, répondre à ses questions, toi, ton cou risque de se tordre en voulant tricher. Donc la vie qui était belle hier, le soir, se transforme à une vie d'enfer le lendemain, à cause de la valeur des choses. Pendant que nous faisions nos sorties, on avait l'impression d'être des hommes forts. Mais devant la feuille d'interrogation, il y avait maintenant des vrais hommes forts. Et devant, quand on donnait le bulletin, ben il y avait des vrais hommes forts. Et toi qui pensais être un homme fort, parce que pendant que les autres étudiaient, toi tu es en boîte de nuit, ben on va voir. Plus tard, qui est vraiment l'homme fort? Beaucoup de jeunes passent leur temps dans les coins de rue. Et les gens qui sont sérieux, les jeunes qui sont sérieux, qui vont étudier, on dit, ah ben, c'est des gaillards zéro, ils connaissent rien du tout. D'accord. Rendez-vous dans 10 ans. Le gaillard que tu prétendais zéro, il va commander un grand écran plat. Et tu sais qui va le porter, c'est toi parce que tu es manutentionnaire, bien-aimé. Lui, il a étudié, il a su estimer la valeur des choses. Un jour, il est devenu directeur. Il commande un écran plat, c'est qui porte avec ses épaules, c'est toi. Parce que au moment où tu devais connaître la valeur des choses, tu n'as pas connu. Mais quand on se trompe, on se sent fort. Il y a des gens qui disent, c'est ma vie. D'accord, rendez-vous dans 15 ans. On va voir si tu pourras dire encore, c'est ma vie. Beaucoup tiennent la tête. Ah, si je savais. Tu savais, parce qu'on te l'avait dit. Le maître à l'école te disait, il faut travailler. Les parents te disaient, il faut travailler. Ah, mais si on me l'avait dit, tu savais, parce qu'il y a des amis qui t'avaient conseillé. Mais tu as joué l'homme beau, l'homme fort. Bien-aimé. Discernons la valeur des choses. Celui qui sait discerner la valeur des choses, même les petites, pourra gérer les grandes. C'est important, bien-aimé. Aujourd'hui, on crie. Ah, mais l'État ne fonctionne pas bien en France. En Afrique, n'en parlons pas. Commence par faire fonctionner d'abord ta propre vie. Tu ne gères pas ta propre vie comme il faut. Tu veux gérer l'État, tu veux prendre la place du président. Commence par balayer chez toi-même d'abord. Celui qui est fidèle dans les petites choses, ce le sera dans les grandes. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Les détails que tu négliges, un jour, ça tournera mal contre toi. Au lieu d'être sérieux avec les enfants, les éduquer avec ordre, tu prends les enfants comme des poupées. Mais dans 20 ans, tu verras bien que ce ne sont pas des poupées parce que les poupées ne grandissent pas. Dans 20 ans, tu les chercheras. Il faut prendre au sérieux l'éducation des enfants. Il y en a qui disent, ah non, il faut laisser l'enfant respirer. Mais qui a fermé le nez d'un enfant? Les enfants respirent, donc ils respirent. Mais nous devons les éduquer selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils grandiront, ils feront de bonnes choses. On dit, ah mais non, il faut laisser l'enfant respirer. Donc passer 5 heures du temps devant la télé. Il y en a même qui coiffent leurs enfants comme des acteurs de cinéma, comme des acteurs de showbiz. Bien-aimé, d'accord. Laisse-les respirer dans ses cheveux. Un jour, tu te tiendras la tête. Ah, si je savais, tu sais, parce qu'aujourd'hui je t'informe. C'est le moment de prendre au sérieux les valeurs des choses. Même les petites choses ont leur valeur. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. On ne devient pas brutalement vigilant. On le devient petit à petit. On ne devient pas brutalement sérieux. On le devient petit à petit. Quand on sait prendre au sérieux les petites choses, on prendra au sérieux les grandes. Et nous allons faire 2 prédications sur ce thème. Aujourd'hui, nous allons insister sur un point très important. C'est la vie. Et prochainement, nous parlerons plus en détail de tout ce qui concerne les choses que Dieu donne aux chrétiens. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à tout humain. Et nous prenons, entre autres, Genèse 41, entre autres passages, Genèse 41. Il est écrit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On lui fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe, cette épis plein et beau, qui montèrent sur une même tige. Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. » Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêté de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Amen. Voilà, Pharaon, c'est le grand roi d'Égypte. Et à la différence de nos rois actuels, c'est que Pharaon était carrément considéré comme Dieu. Donc, c'était pas n'importe quel roi. C'était un roi qui était vénéré comme un Dieu. Et malgré ça, il prend au sérieux le rêve qu'il fait. Il fait un rêve. Lui qui est roi, lui qui est pratiquement considéré comme Dieu, il prend au sérieux le rêve. Je sais que beaucoup auraient peut-être dit, mais ce n'est qu'un rêve. Mais Pharaon a pris au sérieux le rêve. Quand Dieu parle, il faut prendre au sérieux. Je sais que pour beaucoup, quand nous prêchons, ils estiment qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont déjà entendu. Mais il est écrit dans 2 Corinthiens 6, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Pharaon, qui était roi Dieu, petit Dieu, a fait attention à la voix de Dieu, au point d'être troublé, au point de chercher la solution à son rêve, qui es-tu pour résister à Dieu? Le jour du jugement, tu diras quoi? Dieu te présentera le pharaon d'Égypte, il dira, voilà, un homme qui était roi, mais qui a fait attention quand j'ai parlé. Il a cherché à comprendre mon message. Lui qui était Dieu pour les Égyptiens, mais il a cherché à comprendre qui voulait lui parler. Qui es-tu, toi, pour fermer ton intelligence à ce que Dieu veut te dire? Mon cher, ma chère, prête attention au Seigneur. Il faut mesurer la valeur des choses. Pharaon, qui dirigeait un grand pays comparable aux États-Unis d'aujourd'hui, n'a pas négligé un rêve. Il n'a pas négligé. Pourtant, c'est, comme beaucoup diraient, ce n'est qu'un rêve. Mais attention, c'est un rêve qui l'a touché. Il s'est dit, il y a quelque chose. On veut me dire quelque chose. Il n'a pas négligé. Ne néglige pas la parole de Dieu. L'auteur du rêve de Pharaon, c'est celui qui a écrit la Bible. Nous ne prêchons pas un homme, ni une église. Nous prêchons la Bible. Si ce que nous disons ne vient pas de la Bible, d'accord. Si ça vient de la Bible, c'est Dieu qui te parle. Le jour du jugement, tu ne diras pas, ça a été prêché par quelqu'un que je n'aimais pas. Non. Dieu dira, mais il a dit que ce qui était écrit, il n'a pas inventé. Il fallait suivre ce qui était écrit. C'est ça. Suis ce qui est écrit. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Pharaon a été fidèle pour un rêve. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu l'explication, ça a sauvé et son pays et beaucoup de pays et beaucoup de familles. Vous vous souvenez que la famille de Joseph a été sauvée grâce à cela aussi, parce qu'ils étaient dans la famine là où ils étaient. Ils ont été secourus en Égypte à cause de l'interprétation du rêve de Joseph. Un rêve qui n'a pas été négligé, ça a produit le salut de tout un pays. Et non seulement de tout un pays, de toute une région. Un rêve qui n'a pas été négligé. Un seul rêve. Mais combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Combien de fois n'as-tu pas entendu la parole de Dieu? Devant Dieu, tu diras quoi? Combien de fois? Bien-aimé, Pharaon s'est humilié. On lui a raconté qu'il y a un esclave qui explique. Souvenez-vous, je le répète encore, Pharaon était considéré comme Dieu. Mais il accepte de s'humilier devant ses conseillers pour qu'un esclave lui explique le songe. Il accepte. La vie est une question d'humilité. Il se dit, bon, le rêve me dépasse. Et je sens que c'est important ce rêve. Si je fais l'orgueilleux, ce n'est pas un hébreu qui venait m'expliquer. Si je fais l'orgueilleux, ça ne sera pas un esclave. Il ne va pas vouloir que ce soit un esclave qui vienne lui expliquer quand même. Ce n'est même pas un conseiller. Mais il s'est dit, ce rêve est tellement important, je suis prêt à ce que ce soit un esclave qui me l'explique. Dis-toi la même chose. La parole de Dieu est tellement importante. Sois prêt à ce que n'importe qui te le dise, te la donne, cette parole. Sois libre devant la parole de Dieu pour l'apprécier pour ce qu'elle est. C'est important. Le Seigneur nous avertit parce que nous sommes dans la fin des temps. Mesurez la valeur des choses. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues, mais nous allons les répéter. Parce que cela est salutaire, comme dit Paul dans Philippiens. Nous lisons dans Luc 12. Luc 12. À partir du verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Que nous dit la parole? La valeur des choses commence par craindre l'Éternel. C'est lui qu'il faut craindre. Parce que lui a non seulement la capacité de t'enlever la vie physique, mais de l'amener dans le feu éternel. Mais il y a des gens sur terre qui ont des puissances, des pouvoirs politiques ou économiques. Ils n'ont pas cette capacité. Ils peuvent te tuer physiquement, mais ils ne peuvent rien faire à ta vie. Parce que l'homme n'est pas formé que de corps. La vie de l'homme est un tout. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas parce que le corps est mort que la vie est finie. Mais il y a quelqu'un qui peut rendre cette vie-là malheureuse éternellement. Ça, c'est celui qu'il faut craindre. Le diable ne peut pas. Il ne peut que te tuer physiquement. Mais il ne peut pas t'amener en enfer. C'est quand toi, tu rejettes Dieu que tu iras en enfer. Et c'est Dieu qu'il faut craindre. C'est le commencement de tout. Si tu veux bien mesurer la valeur des choses, il faut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu reçois l'intelligence pour mesurer la valeur des choses. Il dit dans Matthieu 6, que nous lisons rapidement, Matthieu 6, 25-27, Matthieu 6, 25, 27, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Deuxième chose, après avoir craint Dieu, Dieu va t'enseigner une chose capitale. C'est la vie qui est la chose la plus importante pour un homme. C'est la vie. Il dit, la vie vaut plus que la nourriture, vaut plus que les vêtements. On peut généraliser en disant, la vie vaut plus que tout ce que tu peux voir. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est succès, la vie dépasse tout ça. Parce que le jour où on t'enlève la vie, tu ne peux plus applaudir. Je n'ai jamais vu autour de France, les gens se promenaient avec le cercueil de Jacques Anquetil ou d'un grand cycliste d'autrefois. Non, quand tu es mort, c'est fini. Je n'ai jamais vu à la télévision le cercueil de Michael Jackson dans les concerts. Non. Quand tu es mort, c'est fini. La vie, c'est plus important que tout. Et la vie n'est pas seulement la vie avec le corps. C'est la vie éternelle, totalement. C'est plus que tout. Dieu dit à ses enfants, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, le vêtement, le matériel, le succès. Ce sont des choses qui n'ont pas de poids devant la vie. Inquiétez-vous pour votre vie. Ta vie est gérée par qui? C'est ça qui doit t'inquiéter. Parce que si elle est mal gérée, ça sera grave plus tard. Mais tu peux toujours avoir toutes les richesses du monde. Comme le Seigneur Jésus dit, à quoi ça sert d'avoir le monde entier si on perd son âme? Tu as toutes les richesses du monde, mais tu perds ton âme. Donc tu perds ta vie. La vie est très importante. Inquiétons-nous de la vie, c'est la première chose. Le dimanche, d'autres qui suivra, on parlera d'autres éléments, mais aujourd'hui, nous insisterons que sur la vie. Soucie-toi de la vie. Et quand je dis la vie, il ne s'agit pas de la vie physique, il s'agit de toute la vie. La vie physique qui est inférieure de loin à la vie totale, spirituelle, de l'âme. Soucie-toi de la vie de ton âme. Où sera ton âme? Soucie-toi de ta santé spirituelle. C'est ça qui est important. C'est ça qui fera que même physiquement, tu seras protégé. Même physiquement, tu seras béni. Comme il est écrit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est-à-dire la vie, c'est elle qui produira la vie physique aussi. Mais on peut croire le contraire, mais c'est une erreur grave. La vie, c'est plus important. Et la vraie vie, c'est la conformité avec Dieu. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la sainteté. C'est cette vie-là qui produit réellement la vraie vie extérieure. Nous lisons dans Luc 12 toujours, au verset 15. Luc 12, 15. Nous revenons à Luc 12. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Attention, la vie d'un homme ne dépend pas de son succès. La vie d'un homme ne dépend pas de sa taille. La vie d'un homme ne dépend pas de sa beauté. La vie d'un homme ne dépend pas du nombre d'enfants qu'il a. La vie d'un homme ne dépend pas de l'argent. Voyez cet homme qui était devenu hyper riche. Il s'est dit, je suis tellement riche que je ne sais plus quoi faire de mes richesses. Alors je vais bâtir de greniers et je vais garder mes richesses dans ces greniers-là. Comme ça, je vivrai toute ma vie. C'est comme beaucoup sont pressés d'avoir une bonne retraite. Comme ça, je vais faire le tour du monde avec Fram Voyage en Tunisie, Turquie. Mais au moment où il arrive à la retraite, Monsieur Parkinson s'élève, cloué dans une maison de retraite. Donc tu arrives à la retraite, maison de retraite. Vous voyez la correspondance. Et l'argent que tu as amassé, qui va utiliser? Qui va utiliser? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Cet homme en a fait l'expérience. Michael Jackson en a fait l'expérience. Et beaucoup d'autres encore. Il y a des présidents qui en ont fait l'expérience. Nous avons vu le président de la Roumanie, hein, ou de la Pologne mourir comme ça dans un avion, alors qu'il y a plein de gens qui voyagent en classe économique qui ne meurent pas. Lui, il a voyagé en première classe, mais il est mort. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous avons connu des dictateurs. Il y a même un qui disait je mourrai au pouvoir. On ne m'appellera pas ex-président, mais on a fini par l'appeler ex-président. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie, c'est quelque chose qui dépend totalement de Dieu. Ça ne dépend même pas du diable. Totalement de Dieu. C'est Dieu qui décide si tu dois garder la vie physique ou la perdre. Et c'est Dieu qui décide de là où tu iras après la vie physique, après la vie du corps. C'est lui qui décide de tout ça. Alors, si on veut s'assurer une vraie vie, il faut craindre l'Éternel. Il faut s'humilier devant lui. L'homme est têtu. On a vu toutes sortes d'orgueilleux passer, parler, être rabaissé, humilié et mourir. Mais nous continuons toujours. Les hommes continuent toujours. Ils ont vu des gens avant eux. On a vu des acteurs de cinéma, Yul Brynner, qui est mort du cancer des poumons, qui regrettait à cause de la cigarette. Il y a des gens qui continuent à fumer. Un acteur, j'ai oublié son nom, français, très connu. Il est mort il y a quelques années. Cancer des poumons. Il a laissé même une cassette en expliquant qu'il était déjà guéri de la cigarette. Mais un jour, puisqu'il était millionnaire, il se dit, mais pourquoi pas une petite cigarette encore? Il a replongé et il en est mort, alors qu'il était déjà guéri. Mais quand on a beaucoup d'argent, on se dit, je suis fort, je décide de ma vie. Non, la vie ne dépend pas des biens de quelqu'un. La vie ne dépend même pas de ta santé, parce que tu peux être en bonne santé et mourir dans un accident de train. Tu peux être en bonne santé, mourir par magie parce que quelqu'un d'autre t'a lancé un sort. La vie ne dépend pas de tout ça. La vie dépend de Dieu. La vie échappe à tous les humains. Il y a des présidents qui meurent de cancer. Mitterrand est mort de cancer. La vie ne dépend pas des biens d'un homme. La vie dépend de Dieu. Ne néglige pas ta vie. Vous savez, à force de vivre, on finit par trouver ça habituel et normal. Bien-aimé, c'est quelque chose de précieux, la vie. Quand je parle de la vie, je parle pas seulement de la vie physique, mais de la vie éternelle. C'est quelque chose de précieux. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est précieux. Vous vous imaginez des milliards d'années en enfer en train de brûler. C'est grave. Lorsqu'on voit des images de prison, on est déjà malade, on souffre. Mais imaginez maintenant des milliards d'années en enfer, dans le feu. La vie, on ne peut pas blaguer avec. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on ne peut même pas la gérer. On ne peut pas la préserver. Seul Dieu gère cela, bien-aimé. Mais nous avons un choix à faire. C'est venir à Dieu pour que notre vie soit sauvée et mise en sécurité. Nous avons ce choix à faire. Et lorsque nous venons à Jésus, non seulement tu es sauvé pour l'éternité, sur terre, la bénédiction t'accompagnera. Amen. La bénédiction te suivra. La protection de Dieu sera avec toi. C'est vrai, tu ne feras pas comme tous les humains. Mais il est écrit, l'homme récolte ce qu'il a semé. Si tu sèmes dans le Seigneur, tu vas récolter des choses merveilleuses dans le Seigneur. Mais tous ceux qui sèment par eux-mêmes, ils finissent toujours mal. La vie, c'est important. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, celui qui veut me suivre et ne me préfère pas à son père, à sa mère, à son mari, à ses frères, à ses sœurs, il n'est pas digne de me suivre. Parce que la vie est tellement importante que tu ne peux pas faire dépendre ta vie de ta famille, de tes sœurs, de tes frères, de ta mère, de ton père, de ton cousin, de je ne sais qui. Tu ne peux pas parce que la vie est trop précieuse. C'est capital. C'est la valeur la plus précieuse qui existe sur la terre. C'est la vie. Il n'y a qu'à voir combien il y a la joie lorsqu'un bébé naît. La vie, c'est extraordinaire. J'ai regardé un documentaire sur les prisons en Afrique du Sud hier. Vous savez, l'Afrique du Sud, je crois que ça doit être le premier pays côté délinquance dans le monde entier. Et les prisons sont remplies. Mais autrefois, j'avais regardé un autre documentaire, toujours sur les prisons en Afrique du Sud. On montrait comment les gens se tuaient en prison. Les gens se poignardaient. Comment les gardiens avaient peur dans les prisons. Mais le documentaire que j'ai vu hier, oh, c'était extraordinaire. C'est que les chefs de prison ont permis qu'il y ait des chorales dans la prison. Des chorales qui annoncent, qui parlent de Jésus, qui chantent Jésus. Bien-aimés, vous allez voir la différence. Alors qu'autrefois, c'était la mort. Les gens se poignardaient, les gens se tapaient dessus. C'est la vie. Aujourd'hui, les gardiens sont en sécurité. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont plus peur des prisonniers. Les prisonniers chantent le Seigneur. Les prisonniers sont transformés. Ils sont libérés plus vite qu'avant. Il y en a qui étaient condamnés à 24 ans. Il est sorti 14 ans après sa peine. Donc parce que Jésus, c'est vraiment la vie. Jésus est entré dans les prisons ont changé. Les prisons font maintenant des concours, des chorales. On nous montrait les prisonniers, mais si on ne vous dit pas que c'est un prisonnier, vous n'allez pas croire. Pendant qu'ils chantaient, ils étaient bien habillés, dans la joie. J'ai dit dans mon cœur, Jésus est réellement la vie. La vie, c'est Dieu. Non seulement c'est la vie éternelle, mais sur terre, tu as la paix, le bonheur. Tu as la joie. C'était des prisonniers. Et même il y a un camp, il a été libéré. Il a fait une année à l'extérieur. Il disait aux journalistes, la prison me manque. Mais pourquoi la prison le manque, lui manque? À cause de Jésus qu'il a trouvé en prison. Il dit, la prison me manque, j'ai hâte d'aller revoir. C'était le dirigeant de la chorale. J'ai hâte d'aller revoir mes amis qui sont devenus comme ses enfants. Et vous savez maintenant où il travaille maintenant? En prison. Il a fini par trouver le travail en prison en tant que dirigeant de chorale. Et il est content chaque fois qu'il est dans la prison parce que c'est là où il trouve Jésus. Jésus, c'est la vie. La vie, c'est précieux. Vous savez, on peut croire que l'orgueil, la colère, ça donne un peu parfois la force. Hein. Quand on était jeune, il y avait certaines rues, avant de passer à cette rue-là, tu te forges un visage de colère et puis tu vas commencer à passer dans la rue. Mais bien aimé, est-ce que ça c'est la vie? Tu vas avoir des rides plutôt que prévu. Est-ce que c'est ça la vie? Même les médecins disent que la jalousie, la colère, la haine créent des maladies. La vie c'est la paix. Tu souris devant tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu es bien. C'est ça la vie, bien aimé. Voilà cet homme qui a amassé des biens, des richesses, et qu'il croyait qu'il avait réussi sa vie, comme on dit. Mais les choses l'ont rattrapé. Que tu le veuilles ou pas, les choses te rattraperont. Sur la terre, les difficultés te rattraperont. Sans Dieu, c'est le diable qui règne, et les difficultés te rattraperont. Nombre 32, 23 dit, ton péché te retrouvera. Ce que tu fais là, en négligeant Dieu, ça te retrouvera un jour. Les enfants que tu négliges à éduquer comme il faut, un jour, ça te retrouvera. L'idolâtrie que tu as vis-à-vis de ta femme ou de ton mari, un jour, tu payeras ça. Un jour. La négligence que tu manifestes vis-à-vis de Dieu, un jour, tu te tiendras la main. Comme cet homme, condamné à 25 ans de prison, il s'est dit, j'étais un voleur professionnel. J'aimais voler. Mais voilà que je me retrouve en prison. Je n'assiste plus aux anniversaires de mes enfants. Ma femme est restée seule. Mais en prison, il a rencontré la vie. Il a rencontré Jésus. Jésus a transformé sa vie. Et il a trouvé beaucoup d'autres enfants. Et Jésus nous le promet dans sa parole. Il dit, celui qui lâche tout pour me suivre, il lâche père, enfant, mère, tout le reste, il en trouvera encore beaucoup. Et en prison, il a trouvé beaucoup d'enfants. C'était ses choristes, bien-aimés. Quelle joie. La vie, c'est dans Dieu. Parfois, on a du mal à comprendre que les gens ne comprennent pas cela. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ces choses qui sont si simples? Nous avons vu de Mohamed Ali finir avec la maladie de Parkinson. Nous avons vu de Saddam Hussein finir pendu. Nous avons vu des dictateurs, le Charles Taylor fuir, Hussein Abré fuir, Sosescu tuer. Nous avons vu tous ces gens-là remplis d'orgueil et de force et de puissance et d'argent finir mal. Mais nous continuons toujours à prendre ce chemin-là de s'éloigner de Dieu et de refuser de suivre Dieu. C'est étonnant. On se dit, mais pourquoi? On a vu, parce que certains vont dire, mais moi je ne suis pas président, je ne suis pas... Mais on a vu des ingénieurs de Renault se suicider. À France Télécom même, c'est devenu un sport, bien aimé. On a vu tout ça. Employé simple comme cadre s'est suicidé. Ça veut dire qu'il y a un problème sur cette terre. Il y a un problème de vie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre ça. C'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Prenons notre vie. Plaçons-la entre les mains de Jésus. Il nous donnera sa vie et nous serons heureux. Amen. Prenons notre vie, donnons au Seigneur. Tout ce que tu fais loin de Dieu finira par te retrouver. C'est le moment. Dieu te parle. Il nous parle. Prenons notre vie au sérieux. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. On commence par dire ta propre vie. Prends-la au sérieux. Ne la laisse pas être dirigé par le diable. Parce que quand tu crois que c'est toi qui te dirige, en réalité, tu ne te diriges pas. En réalité, tu es manipulé par un esprit très fort qu'on appelle le diable. Toi, tu crois que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu te crois fort. Tu es dupé. Tu es manipulé. Mais c'est vrai que c'est toi qui décides. Mais dans ta décision, tu as laissé le diable te manipuler. Mais tu ne t'en rends pas compte. La vie, c'est plus que tout. On ne peut pas la négliger. Prenons au sérieux. Nous lisons dans Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut
avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu ne nous condamne pas. Dieu sait qu'on était perdu et pour certains, ils sont perdus. Dieu le sait. Il sait que l'homme est perdu par lui-même. Alors il est venu lui-même sauver l'homme. Il le sait. Mais ne soyons pas têtus. Ne faisons pas l'erreur de nous laisser diriger par la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est le fait de se sentir vivre. Voilà, tout ça, c'est ça qui fait que les hommes ne prennent pas garde aux avertissements de Dieu. Il est écrit dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On ne fait pas attention. Dieu parle. Mais pourquoi les gens ne font pas attention? Puisqu'ils sont devenus liés par leur convoitise. La convoitise des biens matériels, la convoitise des yeux, la convoitise de la vie, l'orgueil de la vie. Quand on se sent vivre, on se sent fort, on se prend pour un petit Dieu. Et c'est ça qui va occasionner la chute de beaucoup. Mais bien aimé, l'argent ne peut pas sauver, comme on l'a dit. Même sur terre, même l'argent lui-même nous crée des mauvais coups. Le monsieur qui est pauvre, qui va venir le voler? Il est tranquille. Mais le riche, il prend toutes sortes de gardes du corps. Il met toutes sortes d'alarmes. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas en paix. Et comme on voit dans la publicité, dans une publicité à la télévision, quand tu vas voir ton voisin riche avec une limousine de 15 mètres, toi tu vas vouloir avoir une limousine de 20 mètres. Il y a l'envie qui continue. L'argent ne satisfait pas. Après, on veut encore quelque chose d'autre. Une voiture sort, on l'achète. 3 ans après, il y a une autre qui sort. L'envie revient. On n'est jamais satisfait. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrêtera. Salomon a eu jusqu'à 1000 femmes. Nous connaissons des gens qui sont polygames. Vous savez la finalité d'un polygame? Il finit par être SDF. Parce que, obligé de mentir toujours des deux côtés. Bon, j'ai dormi au travail. Là-bas, Et finalement, chaque femme calcule son coût, comment bien piller cet homme et le délaisser. Les polygames finissent toujours par être SDF. Ils finissent par être trahis par ces femmes-là. C'est la loi de la nature, la loi du mal. On sème, on récolte ce qu'on a sémé. Et même quand ils pensent être avec ces femmes-là, ils sont trahis déjà en secret, ils ne le savent pas. Mais c'est les voisins qui sont là tout le temps avec les femmes qui le savent. Mais on se croit fort, on se croit avoir du succès. Ça finira toujours mal. Le monde ne satisfait pas. Ça ne satisfait pas. On cherche toujours plus. Un téléphone extraordinaire que tu as, un autre sort, tu veux encore celui qui est sorti. L'homme n'est pas satisfait. Pourquoi courir après ce qui ne satisfait pas? Il faut venir auprès de ce qui satisfait. Jésus dit, celui qui boit de l'eau que je lui donne sera satisfait une fois pour toutes. Il n'aura plus besoin d'autre chose. Mais tout ce que vous prenez ailleurs, vous aurez encore envie. Bien-aimé, écoute la voix de ton Dieu te parler. Reconnais que c'est la vie qui est la chose la plus importante. Pour certains, c'est leur propre vie, dans le sens orgueilleux, qui est important. Je vis, donc je suis important. Mais ça passe très vite. Je suis jeune. On a tout fait même aujourd'hui. On a changé le mot jeune. Même tu as 45 ans, on dit qu'il est jeune. Tout ça parce que les gens veulent durer longtemps. Mais même si tu veux durer longtemps, ça finira toujours un jour. Tu peux faire les trucs anti-rides un jour. Vous avez vu Liliane Bettencourt, non? À la télévision, 87 ans. Donc, malgré l'argent qu'elle a, vous sentez que ça part, là. Donc, que tu le veuilles ou pas, ça finira un jour. Tu as beau tout faire pour arrêter, pour vivre, la vie t'échappera. Alors, prépare bien cette vie en la donnant au prince de la vie, à celui qui est la source de la vie. C'est ça, bien-aimé. Il y en a qui s'entourent d'honneur. Un jour, cet honneur te quittera. Nous avons vu, non, pour ceux qui suivent un peu le football, on a vu comment le monsieur, il était orgueilleux, l'entraîneur de l'Argentine. Hyper orgueilleux. Mais hier, on l'a dégonflé. Un jour, bien-aimé, ton honneur partira. Un jour, nous on a vu au Maroc, j'étais au Maroc, un président, lorsqu'il faisait une manifestation, tous les présidents du monde venaient, les grands présidents. Mais quand ce président-là est mort, il a été enterré par les sans-papiers. Les sans-papiers congolais du Maroc, c'est eux qui étaient le plus nombreux à l'enterrement de Mobutu. Bien-aimé, ton honneur partira un jour. Vous avez vu comment Mike Tyson a fini, non? Tapé par n'importe qui. Ton honneur finira un jour. Un seul a de l'honneur, c'est Dieu. Alors, parfois, je me dis, mais comment les gens cherchent à lutter contre Dieu? Pendant que toi, tu dors, lui, il ne dort pas, il te regarde. Mais comment tu peux, pendant que tu fais un plan en secret, lui, il le regarde. Vous voyez donc la position que j'ai de regarder comme ça. Dieu, il est comme ça à tout moment. Bon, comment tu peux faire des plans en secret, penser que tu vas cambrioler, il verra pas, ou bien tu vas faire des jalousies. Mais lui, il est là tout le temps, regardez. Moi, j'ai dit, mais comment l'intelligence est partie? La parole de Dieu est là pour nous ramener l'intelligence. Comprenons, Dieu ne dort pas. Il est toujours vivant. Les gens qui l'ont critiqué sont morts. Dieu continue toujours à vivre. Je me demande comment les gens osent s'opposer à un tel Dieu. C'était la même question de Paul. Il dit, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent rater un si grand salut. C'est pourtant simple. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ afin de nous donner la vie. La vie, c'est capital, bien-aimé. C'est capital. Recherchons la vie de Dieu. Ne nous laissons pas avoir par le statut social, les honneurs. Tout cela, ça passe. Ceux qui suivent la télé, les infos, voient comment le ministre du Travail est en train de galérer là. Mais bien-aimé, il y a un an, ou 6 mois environ, il était le chef, le costaud du gouvernement. Il attaquait même ses amis ministres. Il faut la rigueur, il faut la propreté. Mais bien-aimé, regardez maintenant ce qui se passe. C'est lui qui a attaqué comme voleur. Les honneurs, ça passe très vite. Très vite. Très vite. La force de la jeunesse, ça passe très vite. Nous, on croyait qu'on aurait toujours des cheveux, mais ça part. Un jour, les choses partent. Quand tu es jeune, tu crois que tu resteras toujours comme ça. Mais ça part. Le secret de la vie, c'est l'Éternel. Bien-aimés, humilions-nous. Prenons au sérieux notre vie. Prenons cette vie-là, donnons à Dieu. Et Dieu va nous donner des choses à mettre dans cette vie. Et les dons de Dieu sont magnifiques. Si tu aimes les gens, qui est-ce qui va te reprocher ça? Si tu es bon avec tout le monde, tu ne seras jamais déçu. Parce que ton boulot, c'est d'être bon. Voilà les dons du Seigneur. Le don du Seigneur, c'est sa protection, bien-aimé. Les nations s'agitent, le prix de l'essence monte, mais le peuple de Yahvé est toujours dans la paix. C'est ce que dit la parole. Tu es tranquille. Le Seigneur est fidèle. Il te gardera. Il te gardera de tout mal. Dit la parole de Dieu. Il t'ouvrira les portes là où c'est fermé pour d'autres. Bien-aimé, laissons Dieu nous donner son don à lui. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu te donnera comme bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Même quand tes enfants ont des problèmes, c'est une bénédiction de Dieu. Tu ne dois pas avoir du chagrin. Tu dois prier seulement que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie, dans leur vie. Tu dois faire ta part. Tu ne dois pas faire des enfants tes adversaires, lutter contre eux. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel. Toi, fais ton travail. Et le Seigneur te montrera que c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu donne est une bénédiction. C'est important, bien-aimé, d'accepter tout ce que Dieu nous donne. Et il nous a donné le plus grand cadeau, c'est son Fils Jésus. Nous allons clôturer par cela. Ce texte de Luc 19. Zachée, un homme riche, un homme de pouvoir, un jour, il rencontre la vie. Il rencontre Jésus. Jésus entre dans la maison de Zachée. Et Zachée, sans que Jésus lui demande, il dit non, c'est ce monsieur qui a la vraie vie. C'est ce monsieur qui a la vraie vie. Tout ce que j'ai, c'est zéro devant la vie que dégage cet homme. Bien-aimé, ma prière, c'est que chacun de nous vive la même expérience que Zachée. Réalise que ce que nous avons, c'est rien par rapport à Jésus lui-même. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur de l'humanité. C'est la bonté de Dieu manifestée. C'est l'amour de Dieu manifesté. Jésus, c'est la sécurité de l'homme. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus n'a jamais escroqué personne. Jésus-Christ ne s'est jamais vanté lui-même. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. C'est le cadeau de Dieu. Observons Jésus et prenons Jésus comme maître et sauveur. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. C'est le plus grand discernement que vous et moi nous pouvons faire. Prendre Jésus, vivre avec lui, et il transformera notre vie. Nous ne serons plus les mêmes. Nous aurons la vie. Comme un homme comme Zachée ose tout vendre, donner le bien aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que c'était devenu des charges pour lui. La présence de Jésus-Christ lui donnait quelque chose de plus que toutes ses richesses. Il préférait se débarrasser de toutes ses richesses pour garder Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prennent Jésus pour que Jésus leur donne des richesses. C'est malheureux. Alors que les vrais chrétiens d'autrefois, Zachée, ils se débarrassent des richesses pour prendre Jésus. Aujourd'hui, on veut de Jésus pour qu'il me donne une voiture. Jésus pour qu'il me ramène mon mari. Jésus est devenu la banque, l'hôpital et tout. C'est malheureux. Les premiers chrétiens, c'était pas ça. Ils prenaient, allez, ma Mercedes. Dehors, c'est Jésus qui prend la place. Ma beauté, dehors, Jésus prend la place. Je n'ai pas besoin de séduire. Amen. Est-ce que pour sauver les âmes, il faut les séduire physiquement? Ben non. Sinon, ben la Bible, c'est rien. Non, mais non, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse. C'est le choix qu'on puisse faire. Le meilleur choix qu'on puisse faire. Devenons réalistes. Comprenons que tout ce que nous avons comme richesse, argent, beauté, force, honneur, CDI, toutes ces richesses passeront un jour. Mais Jésus ne passera jamais. Comprenons une deuxième chose. Jésus seul peut régler les problèmes de couple. Jésus seul peut régler les problèmes de maladie. Jésus seul peut régler les problèmes d'éternité. Qu'est-ce qui nous prend de refuser Jésus? Qu'est-ce qui nous prend? Jésus, ce n'est pas une église. On ne nous demande pas de suivre une église. On nous demande de prendre le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu s'occupera de nous. Il saura où nous amener. Dans les verts pâturages. Pourquoi refuser un si grand salut? Mettons Jésus en avant. C'est le plus grand don qui existe. Que son nom soit béni. Seigneur, merci de nous aider à prendre au sérieux notre vie. Merci de nous aider à ne pas la laisser entre les mains du diable, croyant qu'elle est entre nos mains. Seigneur, aide-nous à nous humilier, à reconnaître que les choses de la terre passeront. Elles sont inefficaces. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que sans toi, il n'y a pas de vraie solution. Parce que s'il y avait des solutions, Seigneur, les plus riches de ce monde auraient trouvé ces solutions. Mais ils ne les ont pas trouvées. Les savants n'ont pas trouvé des solutions. Les faux prophètes n'ont pas trouvé des solutions. C'est Jésus seul qui reste la solution. Aide-nous à nous confier en lui. Ô Éternel, que l'on soit chrétien ou pas, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour où on se dit, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Ô Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous rappelle que nous devons mesurer la valeur des choses. Et notre vie vaut plus que tout le reste. Parce que tout le reste passera. Mais notre vie, où sera-t-elle? Ô Seigneur, tel que je suis, je viens à toi pour que tu me transformes.